vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Une année de plus pour le festival des Rockomotives qui cultive le goût de la découverte et résiste à l'uniformisation. Entre déflagration électronique, envolée psychée, pop avant-garde et folk comme remède contre le blues, le programme est dense, la confiance aveugle. Rendez-vous du 25 octobre au 2 novembre et d'ici là, retrouvez en fin d'émission un avant-goût de ces festivités avec Ludo de Radio Béton. Côté album découverte, ce ne sera pas moins effervescent avec Funland par This Will Destroy Your Ears, décrit comme une carte postale de cauchemar pop, quelque part entre David Lynch et Stephen King. Place à Shifting Forms d'Elie Zoé, qui nous a habitués aux mélodies qui marquent les esprits. Son quatrième album ne déroge pas à cette règle et continue de dévoiler l'étendue du talent de l'artiste suisse. Écoute et interview par Morgane de Radio Primitive. She sees the whole of the moon. I did as well as I could when I gathered what a madness she was. She's in charge of the rails, sets a fire to my brain. Watch the whole house begin to fall, and she orders a tonic. She's a mess, it's ironic. It's a bliss, she's magnificent, 'cause it's all connected.
écoutiez The Hole of the Moon, extrait du nouvel album d'Elie Zoé qui s'appelle Shifting Forms et qui est paru sur le label Humus Records le 10 octobre dernier. Radio Primitive, radio membre de la Ferrarock, a eu le plaisir de discuter avec Elie de ce nouvel album.
Alors Elie, parle-nous déjà, si tu veux bien, de l'entre-deux albums. Tu nous disais Bonjour, au revoir avec Hello Future Me en 2022. On retrouve maintenant un nouveau toi, un prolongement de toi. On est très heureux de te dire bonjour.
Bah, merci, bonjour aussi. Ouais, c'est marrant parce que j'ai écrit ce Hello Future Me plutôt dans une perspective globale, de dire bah, en fait, souhaitons-nous, imaginons, projetons ce qu'on a envie qu'il arrive, comme chaque chanson a été un peu une graine lancée dans un champ, on verra bien si elle pousse ou pas. C'était pas forcément, et d'ailleurs ce nouvel album pas non plus, directement en lien direct avec mon identité personnelle, quoi. Mais effectivement, je peux parler du processus d'entre deux albums, parce que bah, pendant toute la tournée Hello Future Me, je portais le nom public d'Emily Zoé, mais en privé c'était déjà Elie, et donc j'ai vécu une sorte de transition en souterrain. Tout le long de la tournée, et d'ailleurs à mi-parcours de la tournée ma voix a commencé à baisser et donc j'ai dû adapter les morceaux sur scène pour pouvoir continuer à jouer en concert et puis à terminer la tournée. Et puis à la fin de la tournée, la dernière date c'était à Noël 2023, il y avait des notes que j'arrivais plus à atteindre, en fait j'avais perdu un peu la maîtrise de mon instrument principal hein, qui est ma voix. Donc je faisais chanter même des fois des lignes de voix principale à Fred Burki qui joue sur scène avec moi à la batterie. Et moi je faisais les backings parce que bah voilà, j'étais un peu désorienté. Puis en fait donc j'ai fini cette tournée en me disant bon bah je sais plus vraiment très bien chanter. Penser à une note puis la chanter, ben ça c'était pour moi quelque chose à quoi j'ai jamais réfléchi, j'ai jamais dû faire des efforts pour faire ça. Puis en fait à ce moment-là, je me rendais compte que là, j'étais en train de muer, puis la mue signifiait qu'il fallait que, quelque part, je refasse les connexions entre mon cerveau puis mes cordes vocales. Et donc, l'entre-deux, eh ben, ça a été principalement me réapproprier ma voix, réapprendre à chanter. Et pour ça, je me suis dit, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'être dans un endroit sécurisé, et ben, ça tombe bien, je dois écrire un nouveau répertoire. Eh ben, je vais utiliser le fait que j'écris des nouvelles chansons pour réapprendre à chanter. En fait, chaque chanson qui se trouve sur ce nouvel album, Shifting Forms, bah, c'est un pas de plus vers la réappropriation de ma voix. Et pour être dans un endroit sécur et avoir le temps, je suis resté à la maison. Et avec Louis Jucker, qui est une personne avec qui je travaille depuis maintenant bien plus de 10 ans, on a construit un studio dans des locaux désaffectés et on l'a monté avec du matériel de récupération et on a maquetté et enregistré, arrangé, produit tout cet album nous-mêmes dans cet endroit qu'on avait fabriqué et donc sans contraintes financières qui nous faisaient avoir des contraintes de temps particulières ou comme ça. Donc ça nous a pris toute l'année 2024. Entre l'écriture des morceaux, la construction du studio, l'enregistrement, le mixage, on a aussi mixé nous-mêmes. Finalisé ensuite en 2025 avec Johan Meyer aux États-Unis. Mais donc ça a été un gros morceau. Et puis cette année 2025, j'ai fait le visuel autour du disque, le matériel qui accompagne les morceaux, les clips, des contenus aussi pour partager ce travail-là. Et on arrive à maintenant où le disque sort. Le 10 octobre 2025 et où on commence à tourner.
J'ai l'impression, à l'écoute de ce nouvel album, qu'il y a un lien très très étroit que tu fais entre l'humain, la nature. En 2023, tu avais sorti un livre de dessin, si je ne me trompe pas, autour des petites bêtes. Parle-nous de ce lien avec le vivant.
Ouais, bah, je crois que c'est vraiment central dans ma... Dans mon activité, dans ce que je fais, dans la musique que j'écris et dans tout ce que je fais autour. Tu parlais du livre, c'est un livre d'insectes que j'ai dessiné à la main gauche. Des insectes plus ou moins imaginaires d'ailleurs. Et je pense que c'est central dans les textes de mes morceaux. Ce qui m'inspire, ce qui me fait écrire, c'est de réfléchir à notre rapport au monde, au vivant, l'envie de comprendre d'où on vient et puis où on va. Même si d'ailleurs j'ai l'impression que les notions du temps qui passe, c'est peut-être juste comme via nos perceptions un peu limitées d'humains sur la planète. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup réfléchir à ça. J'aime bien, ouais, voir le lien entre les êtres, voir les cycles de vie, de mort, comment tout se nourrit. Et du coup, pour moi, il y avait un besoin actuellement dans le monde de me dire, mais c'est quoi mon lien au reste du vivant? C'est quoi mon lien aux autres humaines, mais aussi aux arbres et aux animaux? Et j'avais l'impression que c'était pour moi une manière de quelque part habiter là où j'habite, de sortir peut-être aussi un peu du capitalisme à proprement parler. Et du coup, j'ai été vraiment... J'adore apprendre, en fait. Et du coup, j'ai appris beaucoup sur les plantes sauvages, comestibles ou pas, comment les cuisiner. Et qui est-ce en fait qui habite à côté de moi, dans la montagne en Suisse. Et tout ça, il y a dans mes chansons et ça se retrouve beaucoup dans le titre de l'album Shifting Forms, qui est justement En changeant de forme ou Forme changeante. Et je pense qu'il y a dans cette idée-là l'idée de cycle et puis de la fin d'une chose, le début d'une autre, qu'en fait la fin d'une chose, c'est le début d'une autre et qu'il n'y a pas de début sans fin. Et dans tous les autres titres du disque, il y a vraiment d'autres êtres que des êtres humains qui peuplent les chansons.
Élie Zoé parle de son nouvel album Shifting Forms. Il est sorti le 10 octobre dernier et on va écouter un nouvel extrait de ce nouvel opus, Devour the Sun. Some call it soul, it's this strange sky inside when it's raised by the mountains, it takes your breath away. We're alive like all the others, just let fear roar within without roaring yourself. Explain why you're here and overpower. We're all so neat. Shall we settle in? We must share the place we divide. Flies. A breach opened. Cause we're all so mean. In this sad
Euh, j'adore dans tes créations, c'est les mélodies, quoi. Je trouve ça toujours hyper mélodieux, hyper accrocheur. Et du coup, je me questionnais sur ta façon de composer, en particulier cet album.
Oh ouais, merci de noter le rapport aux mélodies, parce que c'est vraiment quelque chose qui est central, je crois, vraiment pour moi quand j'écris. C'est quelque chose sûrement qui me vient du fait que j'ai beaucoup écouté de chansons et de pop dans mon adolescence, mais aussi même enfant. Mon père chantait dans des chorales, puis on allait le voir en concert, et puis il y a ce fait de chanter à plusieurs, d'avoir des harmonies vocales. Ça, je pense que c'est assez central dans la musique que j'écris. Et au moment de composer, pour moi, c'est vraiment le dialogue entre moi et un instrument sur lequel j'écris le morceau. Souvent, c'est des guitares. Mais des fois, ça peut être justement des claviers, des orgues de brocante, des trucs comme ça. Et dans ce dialogue-là, en fait, moi, j'ai jamais fait d'études à proprement parler de musique. Je connais pas le solfège, je sais pas les notes que je joue. Donc, c'est vraiment assez à l'instinct, mais cette absence de connaissances me permet aussi quelque part une liberté. Par exemple, quand j'écris à la guitare, je commence à trouver une note que je trouve qui sonne bien dans cette pièce, sur cet instrument. Puis ensuite, j'en cherche une autre qui va bien avec, que je trouve que ça sonne bien à mes oreilles. Puis ensuite, je vais chercher une suite à ça. Tout d'un coup, j'ai un peu une mélodie de voix qui me vient en tête. Et puis avec cette mélodie de voix, des phonèmes, des sons de mots. Puis ces mots, là en l'occurrence, sortent en ce moment en anglais. Et là, un vers s'écrit. Il y a une phrase, voilà, ça, c'est ça le début du morceau. Puis ensuite, je cherche la suite. Peut-être ça vient soit par une suite de mélodies de voix, soit par la suite des notes qui vont bien à la guitare. Puis quand j'arrive pas à trouver ça avec mes doigts sur le manche, des fois je vais aller désaccorder la guitare pour trouver des autres notes qui vont bien, des cordes à vide qui vont bien. Et ça fait qu'en général, presque chaque morceau a un accordage différent. Et je pense qu'il y a quelque chose de là-dedans qui est assez, qui rend les compositions assez personnelles, voilà. Et ça fait aussi d'ailleurs que, sur scène, j'ai plusieurs guitares, parce que sinon je passerais mon concert à les accorder.
M'étonne.
Mais voilà. Et il y a aussi peut-être le fait, quelque chose qui est une sorte de contrainte que je me donne dans l'écriture, c'est qu'il y ait peu d'éléments, parce que ça me tient à cœur que sur scène, on soit deux à jouer. Donc, quelqu'un qui joue de la batterie et qui chante aussi, qui des fois joue des claviers, lance quelques samples. Et moi qui joue de la guitare, mais mes guitares sont aussi modifiées pour jouer de la basse en même temps. J'ai deux sorties, dont une qui fait de la basse. Et j'ai besoin que, quelque part, ce que je joue à la guitare ou au clavier, ça remplisse déjà presque tout l'espace harmonique. D'où le fait que ce soit des open tuning que j'utilise avec mes guitares. Et donc voilà, c'est un peu tous les éléments comme ça mis en vrac que je peux te donner pour t'expliquer comment j'écris les morceaux. Et après, c'est passer du temps à essayer des trucs. Et je pense que je sais que je suis arrivé à un bon couplet ou à un bon refrain quand je me projette sur le moment où je le jouerai sur scène. Je me projette le jouer. Et quand ça me fait des frissons, c'est que c'est bon, et je garde cette partie-là.
Et les frissons sont garantis à l'écoute de ce nouvel opus Shifting Forums, paru le 10 octobre dernier sur le label Humus Records, d'Eli Zoé. La preuve avec un dernier extrait, Dormant Plants.
You were down. You can call me. Eyes closed will walk. The way your blood beats. Playing the parts is a lot to ask, and for real, we need some time out. We'll take off the costumes and the ties and back to it once we've cooled down.
Inspirés de leur voyage sur les routes anglaises, Funland est la nouvelle promesse du groupe qui portait déjà très bien son nom, This Will Destroy Your Ears. On le découvre aux côtés de Guy Rec de Radioactive.
Salut les diggers, ici Guy Rec de Radioactive, radio Ferrarock située à Langueux dans la baie de Saint-Brieuc. Les radios du réseau Ferrarock vous ont fait découvrir le nouvel album Funland du trio landais This Will Destroy Your Ears. Et durant ces prochaines 20 minutes, nous sommes en compagnie d'un des membres du groupe, Pierre Yo. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bravo pour la sortie de ce troisième album. Tu dois être un peu content, je suppose.
Oh oui, c'est toujours un moment un peu particulier. À la fois content et puis il y a toujours un petit pincement au cœur de se dire qu'on peut plus y retoucher. Il y a toujours ce truc de dire ah mince, il y a toujours des petites imperfections mais qui font la vie d'un album aussi quoi.
Et ben en tout cas pour un album rock, je vais pas dire ça comme ça, mais en tout cas je trouve que c'est un superbe album rock que vous venez de sortir. Mais avant de parler de cet album Funland, je voulais revenir un peu sur l'histoire du groupe. This Will Destroy Your Ears a été fondé en 2018 et très vite en fait vous avez tourné en Angleterre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le début de cette histoire qui a sûrement dû commencer dans les Landes?
Ouais, on est installé dans les Landes, dans le sud des Landes, du côté de Hossegor, Cabreton, tout ça. On savait qu'on voulait un son qui était défini comme assez anglais. Dans les premières répètes qu'on a mis en place, ça c'était assez flagrant. Et j'avais quand même pas mal de potes en Angleterre, pour une raison très particulière et assez anecdotique, c'est que je récupérais souvent les groupes de Attends rêver du roi ouais. À Pau, pour les amener à Biarritz pour qu'ils rentrent en Angleterre sur Londres.
Ah ouais.
Donc du coup, je rencontrais pas mal de groupes anglais comme ça. Et donc, j'ai eu des amitiés avec certains. Et comme on voulait justement ce son un peu anglais, pour la toute première tournée, on va dire micro-tournée du groupe, c'est-à-dire on avait un set d'une demi-heure et sept chansons, un truc comme ça, on s'est dit, on va directement en Angleterre faire quatre ou cinq dates. Comme ça, si jamais on se prend pas des tomates, normalement, ça devrait passer, quoi. Voilà pourquoi on est parti en Angleterre assez vite et pour tester un peu le groupe, en fait.
Je pense que vous êtes assez chanceux de le faire dans ce sens-là, cette carrière de groupe.
Oui, oui, je suis assez d'accord avec ça.
Tu parles de « Attends, rêver du roi ». Justement, votre troisième album, Fudland, il sort sur ce label, mais pas que. Vous avez aussi un label qui va éditer des cassettes, c'est Conical ouais. Records. Un label belge, Louis Music, et puis votre propre label, Cowboy à la mode.
Oui, c'est ça. Alors, le label belge, moi j'ai fait la faute aussi, se dit Loïc.
Loïc.
Ça veut dire Liège en fait, en flamand. Mais j'ai fait exactement la même. Qui est un super label aussi, qui était le label qui a été monté, qui a été fondé par Ititanita à la base. Et qui soutient des groupes comme Endless Dive ou Alaska Gold Rush en Belgique, qui sont des groupes qu'on aime beaucoup. Donc, on est ravis d'être chez eux. Et puis bien sûr, Attends rêver du roi, qu'on connaît depuis un moment, qui nous suit depuis le deuxième album. Et pareil, qui est un des labels français qui prend le plus de risques et qui a vraiment un catalogue, en tout cas qui nous touche, nous, quoi.
J'avais l'air à l'aise dans la scène rock actuelle, mais en même temps, c'est pas si étonnant que ça. Vous êtes un groupe quand même très productif. Vous avez pas mal tourné, comme on l'a dit. Vous avez collaboré avec pas mal de personnes sur vos disques. Vous avez créé un label et même un studio dans lequel vous avez enregistré Funland. Est-ce que tu peux nous parler de ce studio que vous avez créé dans les Landes ? Ça s'appelle Recording United.
Exactement. C'est en fait, avec Magali, la batteuse, on s'occupe d'un tiers-lieu qui s'appelle Container dans les Landes. Donc il y a déjà un espace multifonction, on va dire, où il y a des ateliers d'artistes, où il y a un coworking, où il y a des gens du spectacle vivant qui viennent en résidence un peu toutes les semaines. Et dans ce cadre-là, il y avait un studio plutôt de répétition, en fait, qui était mis en place, mais qui était assez complexe à tenir parce que ça demande énormément d'énergie et de rien que le fait de gérer les clés pour tous les groupes, un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Surtout qu'on est une toute petite équipe, hein, vous devez connaître ça dans les radios associatives. Et on avait de plus en plus de demandes plutôt d'enregistrement et c'était quelque chose qui nous intéressait un peu plus. Donc on a décidé de changer un peu notre fusil d'épaule sur ce projet-là et d'en faire plus un studio d'enregistrement qu'un studio de répétition. Surtout que moi, j'aime beaucoup enregistrer, donc maintenant on a un studio parfaitement autonome dans le sud des Landes qui est un peu spécialisé, je pense, sur tout ce qui est rock alternatif et compagnie. On n'a pas les capacités d'un studio professionnel où on peut faire absolument ce qu'on veut, on va dire, avec des gros guillemets. Mais par contre, on a de quoi faire des batteries lofi. Voilà, toutes les esthétiques un peu rock qu'on aime bien, il y a moyen de bien les faire dans ce studio-là. Ça change la manière de produire de la musique pour nous.
Ça me donne envie de descendre vers l'océan Pacifique et d'aller dans les Landes, tout simplement. Est-ce que tu as une ville ? Est-ce qu'on peut situer un peu ce studio et toutes les choses que vous mettez en place dans les Landes ?
Le studio et le tiers-lieu sont à Angres. En un seul mot, bien sûr. Mmh. C'est la banlieue, on va dire, de Cabreton, Segor, tout ça. Un petit village à 9 km du bord de mer. Mais on n'est pas directement en proie au tourisme, quoique ça commence. Mais il y a de plus en plus de choses qui s'y passent. La côte sud atlantique a été un peu un désert, même culturel, dans les années 90, on va dire. C'était un peu compliqué. Et puis depuis une dizaine d'années... ça s'est très largement développé avec des trucs hyper bien parce que ça a permis de développer même une culture du concert et il y a de plus en plus de groupes qui s'y installent et qui s'y forment, mais avec aussi beaucoup plus de tourisme l'été, ce qui fait aussi quelques désagréments quand t'es un papy qui a grandi dans les Landes et qui voit arriver des hordes de surfeurs l'été, machin. Bon, je comprends que parfois, ils ne soient pas toujours très, très heureux. Il semble de voir la même chose en Bretagne.
Et moi, j'aime bien ce que tu me racontes, hein, cette scène alternative comme ça. Peut-être que vous allez créer une forme de tourisme culturel et musical. C'est plutôt
j'espère,
cool.
J'espère, ce serait pas mal.
Et dans ce sens-là, il y a un truc quand même assez drôle, c'est que pour la production de cet album, Funland, vous avez taffé avec Ben Hampson, qui est un producteur de Brighton, qui a notamment produit Lambrini Girl, Deeds et j'en passe. Il est descendu dans les Landes, dans votre studio ?
Oui, en fait, on s'est rencontrés sur la précédente tournée du groupe. On a joué à Brighton et il était là pour le concert. Et je ne savais absolument pas qui c'était. Je vois débarquer un gars qui me dit « Bonjour, je suis Ben, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais c'est marrant, vous sonnez pas comme sur vos disques. »
Ah.
Alors du coup, j'ai trouvé le truc assez drôle. Du coup, on a parlé toute la soirée, vachement intéressant le gars. Et au bout d'un moment, il y a un pote anglais qui me dit « Mais tu sais qui c'est au moins ?» Je dis « Absolument pas, on a juste parlé son et c'est très intéressant. » Et donc c'est là où j'ai appris qu'il avait produit Deeds et Marcel et pas mal d'autres groupes. Et du coup, on est resté en relation. On est retourné en Angleterre. On a enregistré un titre avec lui pour voir comment ça se passait un peu humainement. On s'est retrouvé très facilement artistiquement. Du coup, on lui a proposé de venir inaugurer notre studio qu'on finissait pendant l'été.
Génial.
Et il est arrivé. Il est resté 2 semaines au studio. Ce qui est bien, c'est que comme c'est dans un tiers-lieu, il y a aussi un appartement. C'est quand même extrêmement pratique. et c'était hyper cool parce que comme on dormait sur place, on pouvait faire des réampes la nuit très très fort dans une très grande salle à 2h du matin sans embêter personne. On pouvait se mettre sur un piano pendant 2 heures et au bout de 2 heures se dire bah non ça marche pas mais bon tant pis on a perdu 2 heures mais c'est pas très grave parce que c'est le même prix pour tout le monde. Enfin, voilà, c'était quand même des conditions qui étaient très très cool.
On est avec Pierre Yo du groupe This Will Destroy Your Ears et on parle de ce dernier album Funland soutenu par les radios Ferrarock. Est-ce que Pierre Yo, t'as un morceau de cet album qui nous fait ressentir l'ambiance de ce lieu ou peut-être de la collaboration avec Ben Hampson?
Pour la collaboration avec Ben, The Way It Goes, qui est une chanson assez calme, une espèce de petite douceur au milieu de l'album. On était en plein enregistrement. On butait un peu sur je ne sais plus exactement quoi, mais enfin sur un morceau de l'album, et j'avais cette espèce de petite ritournelle dont on n'avait absolument rien fait, que je jouais à la guitare, mais guitare électrique non branchée, dans le studio, et du coup il a dit bah on enregistre ça. Et donc on a commencé à enregistrer ça. Donc déjà il a fallu déterminer un son, ce qui était un peu étrange d'enregistrer acoustiquement une guitare électrique.
Ouais, c'est ouf.
Ouais. Et après on a enregistré des espèces de petites percussions, de petits gratouillis, de machin, mais uniquement avec des médiators, avec des micros qu'on grattait. Il y a aucune percussion en fait dessus, que des sons. Donc c'était vraiment de la prod instantanée, on va dire. Et c'était hyper drôle à faire. Et on s'est tellement concentré sur ça que bah, il avait raison. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a repris les chansons qu'on avait commencées, bah, tout était un peu plus frais. Il a cette maturité-là de production. C'est-à-dire qu'il sait quand il faut complètement casser la chose, faire une petite balade, faire autre chose, quitte à aller traîner à la plage pendant 2 heures pour après reprendre quelque chose un peu plus frais. Quoi.
Et ben on s'écoute un extrait tout de suite.
The light turned red when this battle
l'instant, c'était The Way It Goes, extrait de l'album Funland, troisième album du groupe This Will Destroy Your Ears. On est en compagnie de Pierre Yo pour parler un peu de cet album enregistré dans les Landes. C'est vrai que j'entendais presque le parquet de votre studio d'enregistrement dans ce morceau, le morceau le plus calme, on doit le dire, de cet album. On parle des Landes, on parle du Pacifique, on parle aussi de la Manche, puisque on parlait de l'Angleterre. Des fois, quand je fais de la radio, j'ai l'impression, comme dans Good Morning England, de faire de la radio libre, alternative, et je pense que c'est un peu le cas sur les radios du réseau Ferra Rock. Est-ce que toi, les radios associatives, je sais que dans les Landes, il n'y a pas de radio Ferra, mais est-ce que toi, la radio, c'est un média qui te plaît, tout simplement ?
Alors oui, beaucoup, et d'ailleurs, il y a une radio associative là où on était installé, qui s'appelle Wave Radio, qui à la base est une radio un peu dédiée à la culture surf, mais qui tout d'un coup commence à faire plus de choses. On a un petit truc qu'on met en place avec justement le tiers-lieu qu'on tient, qui s'appelle Container, et c'est toujours quelque chose qui m'a... Enfin, je trouve ça très très cool, quoi. Je trouve que s'il n'y avait pas de radio... justement associative et alternative, il n'y aurait plus trop grand chose à part nostalgie à écouter sur les trucs, mais on ne les écoute pas pour la même raison. Voilà, c'est plutôt une espèce de Madeleine de Proust ou un peu par kitschisme, un peu marrant. Et voilà, il n'y a pas trop d'alternatives, quoi. Donc les radios associatives sont quand même très très importantes dans notre quotidien.
C'est pour ça que j'aime bien votre album, j'aime bien ce groupe This Will Destroy Your Ears. Je trouve que c'est un partenariat entre la Ferra et ce groupe qui a plein de sens, et on est très heureux de présenter cet album à nos auditeurs. Est-ce qu'on peut parler de concerts, parce que c'est un groupe aussi qui tourne beaucoup. Vous avez quelques dates à venir, et notamment vous avez fait une release party le 11 octobre dernier, c'est ça ?
Ouais, chez nous au Wharf. Non, pardon, on a joué cet été au Wharf, mais c'était pas la release party, était au Black Flag à Seignos, qui est un peu notre l'un de nos QG dans le coin, un super lieu qui est totalement improbable parce qu'il se trouve en face du parc aquatique de Seignos, donc c'est vraiment le cœur du tourisme seignossé.
Ouais, ça va bien avec Funland, le nom de l'album.
Exactement. Et c'est marrant parce que c'est vraiment au lieu de la culture alternative du coin. Donc c'est vraiment, ils sont au premier rang de la culture touristique, et je trouve ça assez drôle justement d'avoir le contrepoint de cette chose-là. Et ensuite on part en Angleterre assez vite en novembre.
Ouais, et notamment en Écosse, la classe.
Édimbourg, aux Banshees. On a déjà joué à Glasgow. L'Écosse, c'est toujours une petite expérience. Un week-end en Écosse, les gens dans un concert sont bien, bien énervés. Et c'est assez marrant. Parce que ça s'enchaîne. On a 19 Édimbourg, 20 Hull, 21 Sheffield, Sydney and Matilda. Et le 22 à Manchester pour la première fois au 33 Oldham Street, qui est apparemment un club plutôt cool de Manchester. Donc là, on va voir comment ça se passe. Puis après, on rentre en France.
Mais oui, et avec des belles dates. Hein. Le Chinois à Montreuil le 26 novembre. Exactement. Le 27 à la Maltrie à Lille. Le 29 au Ferrailleur à Nantes. Ne manquez surtout pas ces dates. Et puis le 13 décembre au Café Musique à Mont-de-Marsan. Ouais. C'est vraiment cool et assez rêvé, je pense. Votre parcours musical est mérité, en tout cas, de passer des meilleures villes en Angleterre aux meilleures salles françaises, c'est cool.
Bah oui, on va pas se plaindre. On est vraiment très très content de ce début de tournée. C'est vraiment... En plus, on joue, je crois, au Ferrailleur avec Pogo.
Pogo Car Crash Control.
Ouais. Ah. Donc, il y a pire aussi. C'est ok, très bien, je prends.
Et bah Pierre Yo, je pense que c'est largement mérité. Vous êtes un groupe proactif qui fait bouger les choses et vous démenez par vous-même. Funland, c'est votre troisième album qui sort sur Cowboy à la mode, A Temps Rêvé du Roi, sur Loic Music et Econical Records. Longue vie à ce troisième album, Funland, et longue vie aussi à This Will Destroy Your Ears.
Bah, merci beaucoup, et longue vie aux radios associatives.
Merci beaucoup et bonne journée. Ciao.
Dans le vaste monde de la musique, l'association Figure Libre, organisatrice du festival Les Rocomotives, travaille avec ardeur et brio depuis 1992 à défendre le bouillonnement artistique, qu'il soit reconnu ou à la marge. Ludo de Radio Béton vous présente la nouvelle édition de l'événement Vendômois.
Un mot du festival maintenant, puisque c'est l'arrivée aujourd'hui du réalisateur
Jocelyn Borde, directeur des Rocomotives.
Les Rocomotives, c'est une des parties des activités de l'association Figure Libre. C'est notre événement un peu vitrine à l'année, un festival d'une semaine qui a lieu à la Toussaint. Cette année, entre le 25 octobre et le 1er novembre, et c'est un festival en intérieur, vu les températures de la Toussaint, qui mélange, qui est vraiment là pour célébrer un peu la musique dite indépendante et au niveau national, européen, mondial, sur des jauges raisonnées. Ça va entre des jauges de 40-50 personnes à 1200. Et c'est tout un parcours qu'on construit dans la ville. C'est vraiment un festival, ce qu'on appelle festival de parcours à l'intérieur d'une cité. C'est comme ça qu'on le pense et qui existe depuis 34 ans désormais. Alors forcément, il a un peu évolué depuis 34 ans, mais en tout cas, les bases et l'ADN premier de découverte, d'envie de défrichage sont toujours là, avec des évolutions esthétiques qui ont navigué au gré des évolutions aussi des attentes et des goûts de chacun chacune. Mais en tout cas, voilà, là, cette volonté de défricheur et tête chercheuse est toujours présente et on reste ancré sur ce précepte-là, et c'est sur un territoire dit rural, si on applique les mots des dossiers, en tout cas, mais voilà. C'est pas très loin des grandes métropoles de la région centre non plus.
T'es là pour le festival?
Ouais.
On réfléchit à comment construire un parcours tout au long de la semaine dans lequel le public peut se retrouver et dans lequel il peut aller piocher. Après, on n'est pas sur une volonté de se dire, là, actuellement, c'est cette tendance-là qui fonctionne, donc on va aller vers ça. Je pense que certains le font. Il n'y a pas de critique dans ma voix sur ces sujets-là, mais c'est pas comme ça qu'on construit, en tout cas, le puzzle des Rocomotives. C'est plus se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de défendre? Parce qu'objectivement, il y a une notion artistique sur ce qu'on met en avant. Il y a aussi une notion économique et d'indépendance, justement, qui est très présente sur nos choix. Et on réfléchit aussi beaucoup par rapport à quels sont les écosystèmes autour des projets, comment ça a été amené. On est très grossièrement contre le fake et les grosses stratégies commerciales et de médias de masse qui correspondent pas du tout à notre événement. Nous, la volonté, c'est vraiment de se dire qu'il y a différents types de développement, de carrière et de parcours professionnel et de parcours artistique, et qu'on célèbre un petit peu, des fois c'est pas de côté. Voilà, c'est un peu la volonté des Rocomotives, tout en assumant de faire aussi des têtes d'affiche qui rentrent un petit peu dans ce grand moule et cette volonté de comment c'est défendu artistiquement et comment est-ce que ça a été monté de manière un peu fictive. Est-ce qu'il y a vraiment une tête d'affiche, par exemple, de cette année, Odzen? Très clairement, on voit qu'on sait d'où ils viennent, on sait comment ils ont monté leur succès. Et c'est plutôt vers ça qu'on va aller.
En l'épine, salive pas, profile pas, tu laisses là. En l'épine, RP. En l'épine, Khalifa, main dans le sac, Hosanna.
La crise était prévue, elle est tout à fait normale.
Tu sais combien ça coûte d'organiser un festival rock?
Évidemment, on n'y échappe pas, c'est la crise pour tout, en fait, dans la vie quotidienne, en fait. Donc, nous, on a objectivement la chance d'être toujours soutenus. Il n'y a pas eu de grand débat au niveau de la collectivité. Il faut se rendre compte qu'on est en contrat avec le territoire Vendômois pour une partie de nos activités, on va dire une dizaine de concerts à l'année plus le festival des Rocomotives. Ça couvre pas du tout notre budget, mais en tout cas ça couvre une partie. On a la chance d'être soutenu et suivi depuis des années par le département de l'URHR, le ministère de la Culture, la région Centre Val de Loire. Enfin, je suis pas là pour faire le déroulé des logos qui apparaissent, mais en tout cas ces soutiens là sont hyper importants et je pense qu'ils sont toujours possibles parce que si ces institutions financières reconnaissent le travail qu'on fait au quotidien à l'année sur notre territoire, qui certes est la partie visible des Rocomotives, mais aussi tout l'invisible d'accompagnement de projets, de médiation culturelle à l'année, de concerts tout au long de l'année. Nous, le Festival des Rocomotives, sans ces actions-là, je pense, existerait plus difficilement, objectivement. Les Rocomotives sont la partie visible du projet culturel, mais ne peut exister que par tout ce qui se passe à côté, en fait. C'est une des branches du projet. Et après, bah, comme tout le monde, hein, ouais, l'inflation est réelle sur les cachets artistiques, les frais de déplacement. Enfin, de toute façon, tout augmente, donc factuellement, on est pareil. On essaye de pas trop imputer ça sur le prix d'entrée. On a évolué objectivement un petit peu, mais je pense que c'est à la marge sur 10 ans, c'est vraiment faible. Et puis on reste sur des prix d'entrée accessibles avec une moitié de semaine à prix libre et les trois dernières grosses soirées à 25€ pour 7-8 groupes. Donc c'est pas trop là-dessus qu'on arrive à évoluer. Après, on a fait des choix assez drastiques. On a fait des choix drastiques au sein de l'association en interne. Objectivement, on n'a pas voulu rentrer dans la surenchère de cachets. On s'est mis un peu un taquet sur jusqu'à combien on peut négocier avec un groupe. Voilà, on n'y déroge pas, très clairement. Et on gagne aussi du temps maintenant. Enfin, objectivement, c'est qu'on n'est plus à négocier ad vitam aeternam. C'est vraiment, en fait, il y a tant, c'est possible ou c'est pas possible. Mmh. Je parle pour les gros noms. Et puis après, sur les noms plus en développement, voilà, on reste toujours, soumis, de manière bien logique aux contraintes réglementaires. Enfin, nous, tout le monde est payé sur le festival. Mais voilà, donc c'est tout un mix là-dessus. Et donc, entre public qui suit quand même fidèle, soutien financier constant, alors pas en évolution mais pas en baisse non plus, donc on peut quand même se réjouir de notre côté. On fait partie des privilégiés à ce niveau-là d'avoir réussi à stabiliser nos financements publics. Et après, c'est un peu plus complexe pour nous sur des mécénats privés. On est sur des petits territoires et il y a pas forcément de gros groupes implantés, ou en tout cas pas de grands groupes qui seraient très intéressés, je pense, par le festival. Mais voilà, c'est ce jeu, savant jeu d'équilibriste, mais on n'est pas les seuls à l'opérer en ce moment, quoi, très clairement, malheureusement.
Pourquoi prendrait-il ce risque? Parce qu'il faut qu'il sache ce qu'il y a sur le disque.
Le label s'est monté juste avant le Covid, 2019, ce qui nous a permis, durant le Covid, de continuer les activités plus. Donc le label s'est un peu surdéveloppé à ce moment-là. C'est à la fois une envie de garder la notion de disque et d'objet matériel, et ça nous permet, puis aussi on est attaché, ça nous permet aussi finalement de matérialiser un accompagnement qu'on fait à l'année avec pas mal de groupes. Nous, le label, il y a un vrai travail de label, de distribution, de partenariat, d'attaché de presse et autres avec des partenaires, donc. Mais il y a aussi une partie accompagnement et structuration de projet. L'idée, c'est vraiment d'intégrer des projets dans lesquels on croit, qu'on sait qu'on peut accompagner et aider. Et donc voilà, c'est la finalité, c'est pas juste de sortir un disque, c'est aussi de participer au développement de ces projets-là à des échelons divers et variés. Mais moi, il se fait que c'était pas la mission, c'était pas comme ça qu'on s'était fixé la mission, c'était pas fixé de mission d'ailleurs. Mais objectivement, sur les sorties du label, bon, je pense qu'on est trois quarts régional, parce que aussi c'est assez fourni sur la région centre au niveau de la création et de ce qui peut rentrer donc dans nos grilles, on va dire. Et donc voilà, c'est un pourtour général. Et puis sur les économies qu'on a, pour le coup, les labels indé comme les nôtres, on arrive à gérer ces économies-là minimes. En fait, nous, on est sur du sorti de 200 à 300 vinyles par référence et 500 à 1000 CD par référence. Voilà, après, forcément, on n'a pas de campagne marketing incroyable, mais c'est peut-être pour ça que les gros labels vont pas bien aussi. Je pense c'est de mettre des 75 000 euros sur des sponsors Facebook, Instagram. C'est peut-être pas les stratégies optimales. Mais voilà, bon an, mal an, on arrive à s'en sortir. Après, c'est pas avec le label qu'on gagne de l'argent, c'est pas avec le, mais le, ça permet à des projets d'exister au niveau aussi national et de les aider sur le développement de tournées et autres. Donc voilà, je pense que c'est aussi notre rôle, et c'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure sur les différentes facettes de Figure Libre, donc l'association qui organise les Rocomotives. C'est vrai que factuellement, vu qu'on sort pas mal de disques par an, c'est entre 8 et 10, on va dire, ça fait partie de notre programmation. Et puis aussi, il y avait un double enjeu pour nous, c'est qu'on se disait, on va pas se restreindre là-dessus, c'est pas parce qu'on accompagne des projets qu'on ne peut pas les programmer. Il y a des artistes qui parsèment un peu la programmation. Il y a, pour faire très rapidement, il y a Diez le premier dimanche qui est le guitariste de Brenz, qui est désormais vogue en solo, plutôt sur la musique contemporaine et contemplative et autres, et concrète. Donc on a accompagné avec le label Dirty Records en Belgique, donc voilà, c'est une co-sortie. Et à partir du jeudi, donc il y a les temps Figure Libre Records, donc avec le premier soir Mosaï. Sur la deuxième session, ça sera Primevert et Caméléon, donc Primevert qui est aussi travaillé en Belgique avec le label Dirty Records, mais qui est un Vendômois romain de aussi Feu Ropoporose, et aussi le Caméléon. Enfin, ces deux projets-là sortent leur album à la rentrée, donc c'était aussi l'occasion pour nous de présenter les nouvelles formules. Il y a le dernier samedi Stuff Foxes, donc sur la troisième session Figure Libre Records, qu'on a co-sorti avec River Steps. Donc voilà, c'est pareil, c'est un des artistes qu'on a suivis, qui sont développés là pour le coup, qui n'ont pas eu besoin de nous outre mesure pour se développer, mais qu'on a toujours suivi délivrer des conseils qu'on espère qu'on puisse leur être utile. Et la petite surprise, alors c'est pas directement lié à Figure Libre Records, mais en même temps ça fait partie intégralement de l'histoire de Figure Libre. Il y a le retour des Rennais de Montgomery ce jour-là, donc on n'a pas sorti de disque de Montgomery. Et donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Ils se reforment pour quelques concerts, donc c'était un peu compliqué. Enfin voilà, c'est le label comme le festival, c'est aussi des histoires d'aventures humaines, d'histoires de rencontres. Et voilà, ça fait partie pour nous de la famille Figure Libre. Et sur les autres scènes, pas sur les temps dédiés Figure Libre Records, mais au mêlé à la programmation, il y a donc Common Insight qui viendra présenter son nouveau disque aussi en trio. Et sur le dernier soir, il y a Gezir, donc les chouchous locaux, enfin les Vendômois, les Thorésiens de l'histoire, qui ont sorti aussi leur 17 années et qui seront sur la grande scène du Minotaur. Et en ouverture de la soirée, Atomic Flav, donc projet solo électrospatial de Flavien, chanteur de Jim Ballon. Ça présente une partie des sorties de l'année, objectivement, et il y a cette volonté aussi, voilà, de réfléchir à leur meilleure intégration par rapport à la programmation générale. Oh, what a life, don't let it down. Je pense que mon collègue Richard serait triste si j'en parlais pas, mais lui, je pense un de ses gros couteurs, c'est Coles, duo de Pologne, si je me trompe pas. C'est un peu compliqué à définir. Electro-banger, on va dire, avec vraiment un truc très aussi pop mélodique assumé, mais plein d'effets de voix. Enfin voilà, donc qui ouvriront à la Chapelle. On devait déjà les faire, je sais plus, à 2-3 ans, je crois. La tournée avait été annulée. Donc voilà, c'est un des vrais coups de cœur, et on sait pertinemment que ça va être une des grosses sensations découvertes du festival. Je pense qu'un de mes coups de cœur cette année, ça va être Ugly, les Anglais. C'est un combo de, je crois qu'ils sont 8 sur scène. C'est une espèce de folk hyper joyeuse, chorale, où on a envie de lancer des confettis, et qui seront le vendredi après-midi, que j'encourage tout le monde à venir découvrir. Je pense que ça fait partie un des petits noms sensations à venir dans les temps à venir. Et puis je les ai pas vus sur scène, mais j'ai vu les vidéos, tu sens déjà que ça va être et puis il y a ce côté vraiment pour le coup fougue de la jeunesse qui s'en foutent complètement, quoi, en fait. Vraiment, on prend possession de la scène, mais un peu sur un autre registre, les Knives, les Anglais aussi, que j'ai revu à Pop Up cette année. Et c'est vraiment une espèce de maelstrom de bouillon sonique où ils arrivent à nous faire réécouter des riffs un peu fusion et néo, ce qui était quand même néo metal, ce qui était quand même pas gagné. C'était, ça a quand même été mis au banc du bon goût musical depuis 10 ans, ces choses-là. Et ils arrivent à rendre tout ça très digeste. Après, bon, c'est la ligne droite, quoi. Là, très clairement, préparez-vous à pogoter, ou en tout cas à bouger un petit peu. Les Québécois de Patch, qu'on avait fait nous jouer il y a 2 ans sur notre festival de musique plus expérimentale, le Charivari, et où là on est sur du krautrock dans toute sa splendeur, et avec un des chanteurs qui, je crois, avait gagné des championnats d'harmonica, enfin un truc un peu incongru, mais c'est pareil, c'est une machine à danser qui pour le coup clôturera l'événement cette année. Je sais qu'il y aura plein de gens qui viendront découvrir ça, puisque ce soir-là Compromat est une bonne locomotive actuellement de billets. N'hésitez pas à continuer à en acheter, mais en tout cas on sent qu'il y aura une belle jauge sur ce soir-là. Enfin, la tête d'affiche, c'est objectivement Haute-Zen. Et après aussi, pour plein d'autres gens, la tête d'affiche de ce soir-là, ça sera le retour des Prohibitions, qui est un groupe assez culte sur le registre plus noise. Voilà. Le label Prohibited Records vient fêter ses 30 ans sur le festival. Il y aura 3 projets avec Quentin Rollet et Jérôme Lorichon le dimanche, NLF Trio le dernier samedi, et donc Prohibition qui se reforme pour faire quelques concerts pour l'occasion des 30 ans du label. Et je pense qu'il y aura dans la salle, il y aura évidemment plein de gens pour Zen, mais il y aura aussi plein de gens pour Prohibition. Il y a aussi toujours cette notion de les têtes d'affiche pour certains ne sont pas pour d'autres, on va dire, quoi. Sur le vendredi, c'est, bah, clairement Yann Tiersen et Annika sont nos têtes de gondole, on va dire, sur la venue. Et le dernier soir, Compromat, c'est la tête d'affiche de pas mal de lieux actuellement, sur mais je suis ravi de me dire qu'un projet comme Compromat a vraiment passé l'étape du populaire, quoi. Très clairement, on sent que là, c'est pas juste pour les initiés. En tout cas, nous, l'objectif officiel, c'est pas du tout de s'adresser qu'aux gens qui sont des morts d'une musique. On espère les contenter, mais il y a aussi la volonté, voilà, de faire découvrir des choses aux gens, de que des publics plus néophytes viennent et se prennent des baffes. Et puis sur la tête d'affiche, il y a quand même souvent ce truc-là, sans minorer non plus leur qualité. Objectivement, souvent, les gens repartent de la soirée en disant « Ah, ils vont parler d'une découverte qu'ils ont faite. » Parce qu'au final, tu viens, en sachant que ce groupe-là, tu le connais, tu viens pour ça, et tu te rappelles plus du groupe que tu as découvert qui t'a pris par surprise.
C'était Dig, Dig, Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Tout au long de la semaine et dans ce magazine dédié aux découvertes musicales, vous avez pu entendre le disque Shifting Forms par Ellie Zoe, sorti le 10 octobre via Humus Records, ainsi que Funland par This Will Destroy Your Ears, également sorti le 10 octobre via les labels Luck Music et A Temps Rêvé du Roi. Et enfin, nous vous donnons rendez-vous du 25 octobre au 2 novembre pour la nouvelle édition du festival Les Rocomotives à Vendôme. Pour réécouter cette émission et en savoir plus sur les albums soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.